Bonjour, c'est Symbiose, donc l'émission sur le livre, le logiciel libre et la culture libre. Aujourd'hui, on va donc parler d'Internet et de questions de liberté et ce genre de choses. Donc on a deux intervenants qui interviendront par téléphone. Et avec David, donc on vous a préparé les nouvelles du libre enregistrées. Donc on va vous passer ça tout de suite. Donc les nouvelles du libre, on commence par une analyse faite par Gartner, qui est un bureau d'études super sérieux, enfin genre de trucs qui font la pluie et le beau temps dans le domaine informatique, et qui considère que Windows, donc le système de Microsoft, est assez peu pérenne selon leurs propos, et qu'en gros il apporte aucune fonction nouvelle malgré le développement, etc., et que en gros ça leur paraît un peu mort, notamment face aux questions de virtualisation et ce genre de choses. Donc on trouve ça assez intéressant de voir que ce développement assez considérable est jugé assez inutile. Je crois pas qu'ils parlent énormément des dysfonctionnements et ce genre de choses, parce que bon, ça plante pas mal en dépit de la haute technologie intégrée à l'intérieur de ça. Voilà, donc David, parler de
Ardoise. Donc Ardoise est le nouveau logiciel de fichage que la police est en train de mettre en œuvre. Donc ce qui gêne, y compris parmi la police, c'est que ce logiciel qui est destiné à enregistrer des procédures, donc quand vous allez voir la police pour faire une déclaration quelconque, c'est que donc ce logiciel prévoit d'enregistrer certaines informations vous concernant, notamment vos mœurs sexuelles. Est-ce que vous êtes un habitué des prostituées? Est-ce que vous êtes un travesti, un drogué, etc.? Donc, ce qui est gênant, c'est qu'évidemment, on n'est pas loin de certaines dérives qui consistera à faire du fichage. Donc, la HALD a été saisie pour justement veiller. Voilà.
D'accord, on a également, du côté de Bercy, pas le quartier, mais le ministère des Finances, etc., veut imposer Microsoft aux administrations. Alors, faut savoir que dans l'administration, il y a des mouvements assez contradictoires, et au niveau des politiques en général, il y a des courants qui poussent plutôt dans le domaine plutôt dans le logiciel libre. On avait parlé il y a quelques temps de la gendarmerie qui était passée à OpenOffice. Il y a d'autres mouvements, on a vu ça notamment avec des pôles de compétitivité, des arrangements sur la recherche où Microsoft injecte pas mal d'argent et ce genre de choses pour flatter les élus. Il y a aussi des mouvements comme ça qui mènent à imposer Microsoft. Donc on voit, notamment là, sur cette nouvelle-là, il y avait donc un référentiel général d'interopérabilité qui était au point mort depuis un certain temps et qui devient soudainement une urgence parce que dans lequel on a intégré qu'il fallait Microsoft Office 2007 pour les administrations. Ça veut dire qu'en gros il va falloir racheter plein de licences alors qu'on en avait déjà et claquer quelques millions voire quelques dizaines de millions pour financer Microsoft.
Oui, on peut aussi d'autant s'interroger sur le fait que le RGI était figé et qu'il redevient soudainement à l'ordre du jour maintenant que OXML a été normalisé, donc qui est justement le format de fichier de Microsoft Office 2007. Et donc on peut s'interroger de cette coïncidence. Donc sinon, une bonne nouvelle du côté Firefox, puisque Firefox maintenant frôle les 29% de parts de visite en Europe. Donc Firefox, qui est un navigateur libre qui fonctionne donc sous Linux, sous Windows, sous n'importe quel OS d'ailleurs. Et donc maintenant on a Firefox avec 30% de parts de visite quasiment, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc les parts de visite, c'est on fait des stats sur les sites web et on regarde quels sont les navigateurs qui visitent les sites. Et donc on voit qu'il y en a 30% en Europe qui sont du Firefox. Alors, côté culture, on a un label qui s'appelle Daimi Giraffe, qui est un label hollandais qui fait de la musique libre. On a passé plusieurs fois de la musique de ce label. Ils font de la musique très sympa. Et donc, qui fait une tournée en France. Alors, sur Paris, c'est mort déjà, parce que les dates sont passées. En revanche... À Bordeaux, ce sera le... Quelle date ? Le 30, oui, le 30 s'est passé, etc. Mm-hmm.
Attends, il y a le...
Donc, une prochaine date, le 7 mai à Lille et le 8 mai à Roubaix.
Donc, une mauvaise nouvelle du côté de l'OLPC. Pour mémoire, l'OLPC, donc, c'est ce fameux PC à 100 dollars destiné aux pays émergents. Et donc, cet ordinateur à 100 dollars devait tourner sous Linux. Et il y a eu quelques changements à la tête de la direction de l'Institut qui pilote l'OLPC. Et donc maintenant, Linux pourrait laisser la place à Windows.
Oui, on en avait parlé en août dernier. Et donc avec, on avait interrogé le créateur de J'ai compris, donc un logiciel éducatif, et qui nous avait parlé longuement de l'OLPC parce qu'il travaillait pour l'intégrer dessus. C'est quelque chose de très important parce que ce sont normalement des millions d'exemplaires qui devaient être distribués aux enfants de pays sous-développés ou en voie de développement. Et donc ça leur permettait d'accéder à l'informatique et de l'informatique libre, sachant qu'il y avait des fonctions qui permettaient de voir le code source. Donc évidemment ça intéresse pas tout le monde, mais il suffit qu'il y ait un enfant sur 1000 qui ait envie de mettre les doigts dedans. Ils pouvaient s'auto-former, avoir accès à du code, ce genre de choses, et donc vraiment s'approprier des machines. Et donc on ne doute pas qu'à partir du moment où ce sera Windows XP dedans, ça va être fermé et qu'on va les éduquer à considérer que Windows résume toute l'informatique. Et donc on va là, ça va être bien pratique pour les garder en...
Oui, tous les micros en même temps. Là, David, il y a
dans le pétrole, c'est le queue et la vue. Dans le pétrole. Donc Symbiose de retour. Donc aujourd'hui nous sommes avec David et Wail à la technique. Ce que vous venez d'écouter, donc c'est un groupe de Montpellier qui s'appelle Pesticide, donc avec un morceau assez écolo. Donc un groupe avec des textes assez militants, enfin en tout cas engagés. Et donc voilà, ils éditent leur musique, enfin ils la diffusent sous licence Creative Commons. Donc qui autorise enfin ils n'autorisent pas les exploitations commerciales sans leur accord, mais qu'on peut télécharger, distribuer, modifier si on le souhaite. Voilà. Donc aujourd'hui, on a deux invités qui interviennent par téléphone. Alors on est un petit peu comment dire, dans l'expectative parce qu'on maîtrise pas tout à fait la technique, mais David, tu vas peut-être nous commencer par nous dire un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui.
Donc le thème du jour, c'est les libertés sur Internet et le logiciel libre. Comment les deux ont... Tout d'abord, voir un petit peu d'historique. Quelles sont les libertés fondamentales en fait que Internet nous a ouvert. En quoi elles ont aussi alimenté une certaine réflexion dans le logiciel libre. Et aussi en quoi le logiciel libre, aujourd'hui, va nous garantir un certain nombre de libertés. Donc, pour discuter de ces thèmes, on a invité Benjamin Bayard de FDN, qui est un opérateur associatif, un opérateur Internet associatif. Et on a aussi Florent du projet Freenet, qui va nous détailler plus en détail quel est ce projet.
D'accord. Alors, oui, est-ce qu'on a du monde ? Nous, de notre côté, on n'entend rien.
Est-ce qu'on nous entend ?
Bon. Alors, c'est pas évident. Bon, on l'entendait tout à l'heure, donc ça va pas être complètement perdu.
Donc, si
présenter un petit peu
Benjamin
plus,
ou Florent nous entendent, parce que...
Donc, on va en profiter pour parler un peu de comment ça présentait les projets. Par exemple, FDN, donc tu disais que c'était un fournisseur d'accès Internet associatif. Voilà, donc, il s'agit, on peut aller s'abonner chez Neuf ou Orange ou ce genre de truc, et on peut aller aussi chez FDN.
Exactement.
Et FDN a cette spécificité d'être une association. Et de garantir à ses membres de ne pas, enfin donc ils leur fournissent Internet, et de ne pas aller mettre le nez dans ce qu'ils font, de ne pas enregistrer les logs, etc.
Tout à fait.
Et il y a donc une assemblée générale tous les ans, et donc tout est ouvert, on peut voir, évidemment il faut aussi connaître en technique, mais en tout cas on peut au moins se reposer sur d'autres membres de l'association, et tout le monde peut aller voir comment marchent les systèmes, qu'est-ce qui est enregistré, ce qui ne l'est pas, ce genre de choses. Et donc, c'est, à leur sens, une démarche qui permet, enfin, garantit plus de tranquillité, parce qu'on peut rappeler que, donc, dans le domaine, notamment, on avait parlé, dans les dernières émissions, des questions de copie, ce genre de choses, et des lois qui se mettent en place pour contrôler tout ce qui bouge, notamment par le biais de sociétés privées, d'organismes privés, etc. Et avec cette idée toujours de charger les providers, donc les fournisseurs d'accès Internet, de la responsabilité de ce qui peut passer, transiter chez eux.
Oui, exactement. D'autant que c'est toujours une question en fait d'acteurs sur le marché. On s'aperçoit qu'il y a, on va dire, 3-4 grands opérateurs qui doivent contrôler au moins 95% du marché. Et il est clair que ces opérateurs se permettent un certain filtrage ou un certain nombre d'analyses de données. De mon point de vue en tout cas, enfin, qui enfreignent nos libertés individuelles, savoir que mon opérateur n'a pas savoir sur quel site je vais. J'irai même plus loin, il n'a pas en interdire.
On va voir si on arrive à récupérer nos invités.
Allô ? Allô ?
Là, pour l'instant, on n'entend rien.
Oui.
Non, signe que manifestement, c'est pas tout à fait réglé. Donc le projet, notre second invité, on en parle... un peu à leur place, malheureusement. Donc, c'est Freenet. Est-ce que tu peux présenter ce que c'est ?
L'objectif du...
Non.
L'objectif, en fait, de Freenet, c'est de se dire, à l'heure actuelle, en fait, tout ce qui circule sur Internet, en général,
n'est pas chiffré et on est toujours clairement identifié donc par son adresse IP, donc qui est un identifiant fourni par l'opérateur et qui permet de déterminer de manière unique un individu un instant T. Ça signifie que quand vous allez sur un site, si vous allez sur un deuxième site, par recoupement de données, on peut recréer votre historique Internet. Donc l'objectif du projet Freenet est d'une part d'assurer un certain chiffrement des données pour assurer la confidentialité, de sorte que même votre opérateur ne pourra pas savoir quelles informations ont transité par votre ordinateur, d'une part, et d'autre part, il ne pourra pas dire non plus sur quel site vous êtes allé. Donc, comme autre projet, là on va voir Florent donc du projet Freenet. Il y a eu d'autres projets comme Tor qui fonctionnent sur des principes similaires. Après, Florent pourra nous expliquer plus en détail les différences techniques. L'objectif étant toujours de se dire.
Alors, on va essayer encore à nouveau. Donc, est-ce que quelqu'un m'entend ?
Oui.
Oui.
M'entendez.
Alors moi, je t'entends parce que j'ai le casque de Whale sur les oreilles de la technique. Donc on va essayer de te passer dans le studio parce que nous dans le studio on t'entend pas.
Ah. Alors, moi, oui. Là j'ai eu un problème, mais sur Internet j'ai une latence énorme.
D'accord. Bon. J'entends il y a un son.
Les deux lignes ont été coupées, donc on va attendre qu'ils nous rappellent. C'est un peu difficile aujourd'hui.
C'est délicat.
Donc on va continuer l'émission. Ouais. Normalement.
Donc pour continuer la discussion autour de l'intérêt des projets style Freenet, c'est vraiment, on peut prendre l'analogie avec tout simplement une autoroute. On nous parle toujours d'autoroute de l'information. Quand vous prenez votre voiture et que vous achetez vos tickets de péage, il n'y a pas quelqu'un en permanence en train de surveiller par où vous allez. Si vous payez votre ticket avec du liquide, on ne peut pas reconstituer votre parcours. Et c'est tant mieux parce qu'on n'a pas rentré dans votre intimité, à savoir vous allez d'un point A à un point B. Or, à l'heure actuelle sur Internet, cette intimité, on ne l'a pas, vu que l'opérateur a accès aux données. Donc, il y a des opérateurs comme FDN qui, effectivement, garantissent cette isolation des données et cette non-intrusion dans votre vie privée. Mais quand vous êtes chez d'autres opérateurs, il y a des alternatives. Et Freenet en est une, qui permettent, en installant un certain nombre de logiciels sur votre ordinateur, des logiciels libres, une fois de plus. Donc vous pouvez en plus vérifier qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur et qu'il n'y a pas non plus de spyware. Et donc avec Freenet, on vous garantit cette anonymité sur Internet que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous n'avons pas. Il faut vraiment avoir conscience que, quoi que vous fassiez sur Internet, votre opérateur le sait. On a vu avec un certain nombre de lois, lui qu'on parlait, que les opérateurs sont de plus en plus responsables de ce qui transite par chez eux ou de ce qu'ils hébergent. On sait qu'il y a certains sites aussi qui sont filtrés par les opérateurs. Donc...
Bon, oui, alors on a récupéré nos invités par téléphone, donc vous m'entendez ?
Oui, très bien.
D'accord, donc on vous a tous les deux, malheureusement on ne vous a pas dans le studio, donc on est obligé de le faire au casque. Je pense que David, tu connais mieux le sujet que moi, donc ce serait mieux que tu prennes le casque,
d'accord.
Et que qu'on fasse d'ici, c'est pas idéal, mais c'est mieux que rien.
Oui, bonjour. Donc on va commencer par Florent. Est-ce que tu peux, j'ai essayé de détailler Freenet, est-ce que tu peux réexpliquer en fait
expliquer en gros
alors l'objectif et surtout pourquoi ce projet s'est créé en fait.
Alors ce qu'il faut savoir déjà, je vais commencer par introduire Freenet brièvement. Donc Freenet, c'est un logiciel qui vous permet de publier et d'obtenir des informations à partir d'Internet sans que vous n'ayez à vous soucier d'une censure quelconque. Donc, pour permettre cet anonymat et cette liberté, le réseau doit être anonyme et doit être décentralisé. donc anonyme, étant donné qu'il ne peut pas y avoir vraiment de liberté si on est capable de tracer et donc de savoir qui a fait quoi sur le réseau, et décentralisé, parce que le réseau doit être invulnérable aux attaques standards, je vais dire, qui peuvent arriver sur un réseau. Donc c'est un modèle de réseau qui permet de rendre le réseau plus résistant aux attaques potentielles qu'il pourrait y avoir contre le réseau. Donc pourquoi Freenet ? Freenet est né il y a maintenant longtemps, à savoir que le projet a commencé en 97. Enfin, le papier original, c'est un projet de recherche. Et le papier original décrivant le réseau est sorti en 97. À l'origine de ce papier est Ian Clark, donc le leader actuel du projet, qui est un Irlandais et qui, à l'époque, avait des amis chinois, des amis dissidents chinois qui jouaient politique et leurs opinions sur le régime en place. Donc, Freenet a été créé pour leur donner un moyen, un outil, pour qu'ils puissent s'exprimer.
Donc, cette notion de décentralisation, est-ce qu'on peut rappeler aussi que, historiquement, c'était l'objectif premier de la naissance d'Internet, justement. Pour mémoire, quand ça a été créé par les Américains, c'était justement, en cas d'attaque atomique, garantir un fonctionnement permanent du réseau. Donc, il est intéressant de voir que ça se traduit maintenant pour donner, comme tu le disais, les moyens d'expression à tout le monde.
Bah, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Internet, à l'origine, c'était un réseau qui a été conçu pour les militaires.
Oui.
Donc, pour eux, il était très important d'avoir une résistance, je vais dire, contre certains types de problèmes que seuls les militaires peuvent rencontrer.
D'accord.
Mais d'un autre côté, le fait que le réseau ait été conçu pour les militaires fait que, sur Internet, il n'est pas possible d'être anonyme.
Oui.
Dans le sens où tout a été fait pour qu'on puisse contrôler, authentifier et savoir qui est qui, justement. Donc Freenet, c'est un réseau dans le réseau.
D'accord, et donc ça fonctionne comment ? Il faut installer quelque chose sur son ordinateur, c'est ça ?
Voilà. Donc Freenet est un logiciel qu'on installe sur un ordinateur qui bien souvent est connecté à Internet, mais le réseau Freenet en lui-même n'est pas dépendant d'Internet. On pourrait très bien imaginer que des nœuds Freenet, parce que c'est comme ça qu'on appelle le logiciel une fois qu'il est installé sur chacun des ordinateurs, puissent communiquer entre eux via une liaison réseau quelconque, et pas forcément via Internet, via le Wi-Fi par exemple.
D'accord, donc en fait ça permettrait l'émergence d'un réseau entièrement libre, basé sur des individus uniquement et pas sur des institutionnels.
Voilà.
D'accord.
C'est un réseau parallèle avec une topologie complètement... Donc une topologie, c'est une configuration, je vais dire, et un ordonnancement de réseau complètement anarchique, entre guillemets.
D'accord. Est-ce qu'on peut juste maintenant demander à Benjamin de présenter FDN ?
Oui, alors le débat risque d'être un tout petit peu compliqué par le fait que j'entends pas du tout ce que dit l'autre invité.
D'accord.
FDN, en deux mots, c'est une association loi 1901, ce sont des bénévoles, c'est-à-dire qu'il n'y a personne de salarié là-dedans. C'est probablement le plus vieux fournisseur d'accès Internet encore vivant en France. On est fournisseur d'accès Internet depuis avril 92, donc ça fait 16 ans. À l'époque où FDN est né, la question était relativement simple. Internet existait déjà depuis un bon moment même pour les plus anciens. Simplement, fournisseur d'accès à Internet, c'était pas un métier, c'était pas un business. Il y a à peu près personne qui le faisait à cette époque-là. Il devait à l'époque y avoir quelque chose comme un millier d'utilisateurs d'Internet en France. Et donc, des gens qui connaissaient Internet, pour l'avoir pratiqué dans des universités américaines par exemple, ont décidé de s'associer pour construire le nécessaire pour pouvoir accéder à ce réseau et pour pouvoir l'utiliser, le plus souvent dans des cadres de projets de recherche ou simplement à des fins personnelles. Donc voilà, l'origine de FDN, c'est d'être simplement un fournisseur d'accès à Internet. Les questions qui sont venues se greffer après dans la vie de l'association sont essentiellement d'ordre politique, éthique et d'ordre d'usage. C'est-à-dire qu'on a développé dans l'association un usage du net qui est celui qui semblait normal, naturel et classique en 92, qui n'est plus du tout l'usage d'aujourd'hui. On l'estime meilleur, au moins pour des raisons techniques et souvent pour des raisons politiques. Et donc, on continue à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire fournir de l'accès à Internet proprement, mais... en permettant absolument tout aux gens et en les rendant totalement responsables de ce qu'ils font.
D'accord. Donc, quel est votre différenciant Forge avec les opérateurs, on va dire, plus traditionnels ?
Ben, je vais prendre quelques exemples très simples. L'opérateur traditionnel, il te fournit une adresse mail parce qu'il y est obligé. Et la seule façon qu'il a de gagner de l'argent en te fournissant une adresse mail, c'est d'afficher de la pub dans un webmail. Donc lui, son intérêt, c'est petit 1 que tu utilises son adresse mail, petit 2 que si possible tu ailles la lire sur le web plutôt qu'avec ton lecteur de mail habituel sur ton PC, de manière à ce que, au lieu de dépenser de l'argent à te fournir une adresse mail qui lui sert à rien, il gagne de l'argent en te montrant de la pub.
D'accord.
Ça, c'est le comportement logique et naturel d'un opérateur aujourd'hui. C'est ce que font tous les gros opérateurs. Notre comportement à nous est tout à fait différent. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à te permettre d'avoir du mail. La meilleure façon d'avoir du mail, c'est d'avoir ton petit serveur de messagerie perso chez toi. Si tu sais pas l'installer, on veut bien t'expliquer, on veut bien t'aider, on veut bien te guider. Et si vraiment t'as pas le temps, si vraiment tu peux pas faire autrement, alors on t'installera une boîte aux lettres sur notre serveur de messagerie et tu pourras, si tu veux, y accéder via le webmail sur lequel, de toute façon, il n'y a pas de pub. Donc, voilà, la différence d'approche, elle est là. Le but des opérateurs, c'est que tu consommes quelque chose qui rapporte de l'argent. Notre but à nous, c'est simplement de te fournir de l'accès à Internet et de te fournir tout ce que permet Internet, pas seulement ce qui, dans Internet, permet de gagner de l'argent. Donc, ça donne une approche très différente.
Mais qu'en est-il justement de tout ce qui est filtrage et statistiques ? Enfin, je pense notamment au filtrage. Est-ce que vous mettez en place un certain nombre de filtres, comme on sait que c'est le cas chez un certain nombre d'opérateurs ? Ou est-ce que vraiment, tu parlais de responsabilisation de l'individu, vos clients peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent avec le réseau ? Et surtout, si la réponse est vraiment une responsabilisation totale de l'individu, comment vous pouvez gérer les nouvelles lois que l'on a vues survenir au cours des dernières années, qui justement tendent à responsabiliser de plus en plus le fournisseur d'accès ?
Alors, en termes de filtrage, c'est très simple. Nous, on filtre rien, jamais. On l'a jamais fait et je pense qu'on le fera jamais. Et ça, c'est très simple. Aucune loi n'impose de filtrer à l'heure actuelle. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, on est 100% dans les clous, on respecte toutes les lois, il n'y a aucun problème là-dessus, on a tout à fait le droit de ne pas filtrer. Comment on gère le problème de la responsabilité ? Il est très simple. On n'a pas de clients. Nous, on n'a que des adhérents. C'est-à-dire que si tu prends ton accès à DSL chez FDN, tu es autant adhérent de l'association que moi qui en suis président. Je ne suis qu'un des adhérents qui a été élu président lors d'une assemblée générale. C'est tout. Je ne suis pas plus adhérent que n'importe qui d'autre.
D'accord.
Ensuite, comment on traite la responsabilité ? C'est très très simple. Les lois là-dessus, pour le moment, sont très claires et sont pas trop mal faites. Elles indiquent simplement que ma responsabilité, c'est de savoir à qui j'ai fourni de l'accès. Exactement comme un loueur de voiture qui te fournit une voiture, si tu fais des bêtises, il doit dire ce qu'il a comme info. Il n'est pas obligé de savoir toute ta vie familiale. Juste, il doit fournir les infos pour que la police puisse continuer son enquête. Typiquement, les infos qu'on peut nous demander, c'est le moyen de paiement. C'est-à-dire, s'il y a un délit grave qui est commis, il y aura une enquête, un juge d'instruction, des commissions rogatoires. La commission rogatoire nous demandera qui a eu tel IP tel jour à telle heure et a commis tel délit. Nous, on répondra en disant lequel de nos adhérents avait cette adresse-là. Après, s'il a fait quelque chose ou s'il n'a pas fait quelque chose, si ce qu'il a fait c'est bien ou c'est mal, c'est pas à nous de le dire. Ça, c'est le métier des juges. Nous, notre métier, c'est de permettre. On permet aux gens d'accéder à Internet. Après, ce qu'ils en font, c'est de leur responsabilité propre.
D'accord. Alors là-dessus, je voudrais revenir justement sur le projet Freenet avec Florent. C'est que, par définition, Freenet rendant totalement anonyme les gens, est-ce que vous ne craignez pas les dérives? Parce que souvent, quand les gens nous disent « c'est pour votre bien, on veut vous interdire telle chose ou surveiller telle chose », c'est toujours dans ce pseudo-discours qui consiste à dire « on le fait pour votre meilleur bien ». Or, justement, on s'aperçoit que Freenet permet de passer outre ces limitations. Et finalement, ça peut donner lieu à aller accéder à du contenu interdit par la législation.
Alors, en France, la loi
n'a pas été créée pour...
Alors, attendez, là, vous parlez tous les deux en même temps. On va d'abord laisser parler Florent et ensuite Benjamin.
D'accord.
Vas-y, Florent.
Alors, c'est un petit peu dur, en fait. Bon, donc, je disais, oui, Freenet n'a pas été créé dans le but de contrevenir aux législations en vigueur. Mais il est clair que Freenet, dans un avenir plus ou moins proche, sera interdit par les législations. Pour la simple et bonne raison que, justement, un gouvernement en place va forcément, à un moment donné, vouloir avoir quelques contrôles quant aux données et aux communications que les citoyens peuvent faire ou peuvent avoir entre eux. Donc, à ce niveau-là, la philosophie de Freenet est de dire que, pour faire simple, il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas une liberté d'échange entre les gens. Et cette liberté d'échange, pour la garantir, il faut que l'on trouve un moyen d'empêcher des tiers, typiquement un gouvernement, de monitorer, enfin de surveiller les contenus qui sont échangés entre les gens.
D'accord. Alors on va voir avec Benjamin, justement, en tant qu'opérateur, qu'est-ce que ça implique ?
Il y a deux choses bien distinctes. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, il y a très peu en France de problèmes de contenu illégal. Quand un contenu est illégal, c'est jamais le problème de l'opérateur, c'est toujours le problème de l'hébergeur. En France, il n'y a pas, à l'heure actuelle, de site et de cas où on ait demandé de manière formelle à des opérateurs d'interdire l'accès vers un site. À ma connaissance, il n'y en a eu qu'un qui a donné des choses assez curieuses, et qui doit être toujours en appel ou devant la Cour de cassation. Mais la base, c'est que quand il y a un contenu illégal, c'est la personne qui a publié le contenu qui va avoir des problèmes. Beaucoup plus que la personne qui est allée le voir. Le deuxième point, c'est que les problèmes de liberté d'expression sur Internet, ils ne sont pas que liés à ce que dit la loi. Ils sont aussi liés à ce que permet la technique. À l'heure actuelle, Internet se retrouve concentré en France sur quelques gros opérateurs qui, à moyen terme, devraient être trois. En fait, c'est très simple, ils vont être centrés sur les trois licences mobiles. Il y a SFR qui est en train de se consolider avec Neuf, avec Club Internet, avec AOL, avec Télé2, etc. Il y a Orange qui est déjà tout consolidé, et il devrait en émerger un troisième autour de Bouygues, de Numéricable, peut-être des restes d'Ali, et éventuellement des Free. Donc, le fait qu'Internet soit aux mains de trois opérateurs, ou quatre, et quelques opérateurs peuvent écouter ce qu'ils veulent sur ce que font les abonnés. Tant que vous avez une discussion en clair, non chiffrée sur Internet, l'opérateur est en capacité d'écouter. Après, il ne faut pas se tromper. Ce sont des entreprises. Leur but premier, c'est de gagner de l'argent. Si ça coûte de l'argent et que ça ne rapporte rien d'écouter vos conversations, elles n'écouteront pas. C'est à peu près l'état actuel. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, écouter ce que font les internautes, ça coûte une fortune et ça ne rapporte rien. Donc les entreprises ont tendance à ne pas le faire. Ceci dit, c'est en train de changer. Petit à petit, il se met à y avoir de gros avantages financiers à écouter les internautes, voire à les filtrer. Exemple type, vous allez regarder des vidéos rigolotes sur YouTube ou sur Dailymotion, c'est gratuit, vous ne payez rien, ça ne rapporte rien à l'opérateur et ça lui coûte parce que vous consommez de la bande passante. Si à la place vous alliez regarder des rigolotes sur son système de vidéo à la demande, vous auriez payé un abonnement pour ce service plus le prix de chacune des vidéos, et ça aurait rapporté de l'argent. Donc ce qu'il faut faut redouter de la part des opérateurs, c'est l'intrusion dans la vie privée pour des raisons de marketing, pour faire du profiling typiquement, ou pour des raisons vraiment bassement mercantiles, vous empêcher d'accéder aux services gratuits de manière à pouvoir vous fourguer un service payant.
Et d'accord.
Contre ça, la seule chose qu'on puisse faire si on veut rester abonné à un gros opérateur, ce sont les techniques comme celles que propose Freenet. Il y a deux façons de résoudre ce problème. Soit on choisit un opérateur en qui on a confiance, je dirais que ça c'est la solution FDM, soit on choisit un opérateur en qui on n'a pas confiance et on est obligé de mettre des couches de filtrage et des couches de chiffrement permettant de contourner tout ce que l'opérateur veut faire de mal propre. Et ça, c'est la solution Freenet.
Eh bien, on va passer un morceau de musique et on revient dans quelques minutes.
Au début, la pensée ne servait à rien. C'est la force du corps qui penchait le destin. Fait d'expérience en idée comme un fruit de bœuf dans le mur. Cette pensée a un jour dompté la nature. Où est le pouvoir? Et le pouvoir?
Symbiose, on est de retour sur Radio Libertaire 89.4. Donc on est toujours en train de parler d'Internet et de liberté dans des conditions difficiles parce que le téléphone a un petit peu de mal avec. On va vous passer la suite. J'appelle David à la rescousse pour la suite. Alors David, qui est-ce qu'on va voir? Florent. Alors, ouais, il nous passe. Appuie sur le bon bouton.
Donc, Florent, tu voulais préciser un certain nombre de choses.
Oui.
Vas-y.
Donc tout à l'heure, alors c'est un peu pénible parce que vu qu'on n'arrive pas à répondre l'un à l'autre, j'ai pas pu interagir tout de suite. Donc, je voulais préciser quelques petites choses concernant Freenet. Donc, concernant Freenet, le problème qui se pose pour un gouvernement qui voudrait potentiellement interdire la publication de certaines données, et qu'il ne peut pas aller contre le fournisseur de contenu. Étant donné que le fournisseur de contenu, il y a deux choses. Premièrement, il n'est pas possible techniquement, ou du moins tout a été fait techniquement pour empêcher sa localisation. Donc il n'est pas possible de savoir qui c'est, ni de savoir où il est. Et au-delà de ça, même si on arrivait à trouver la personne qui avait inséré les données sur Freenet, lui-même ne serait pas capable de retirer ces données-là. Les seules opérations qui sont permises sur Freenet c'est l'opération d'insertion et l'opération de récupération des informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on récupère des informations sur Freenet, on propage ces informations. Ce qui veut dire que, même techniquement, ça se conçoit très bien. Pour pouvoir localiser des informations, il faut les demander, pour pouvoir voir d'où elles nous ont été envoyées. Le simple fait de demander ces informations sur Freenet va faire que le réseau va dupliquer ces informations, pour plusieurs raisons. La première raison étant évidente, la lutte contre la censure, à savoir que plus on demande une information, plus elle va être répliquée, ce qui fait que plus la censurer va être difficile. Et l'autre raison, c'est les performances. Parce que on part du principe que plus des données sont populaires, plus il faut organiser le réseau pour que celui-ci puisse fournir des performances acceptables. Donc, pour revenir au cas d'un gouvernement qui voudrait censurer des données sur Freenet, la première, comme l'a très bien dit l'autre invité tout à l'heure, la première réaction que va avoir ce gouvernement, c'est de se retourner contre le fournisseur de contenu. Il se trouve que sur Freenet, le fournisseur de contenu est tout simplement, bah, d'une part, inconnu, et d'autre part, lui-même n'a aucune action et ne peut entreprendre aucune action pour retirer les données qu'il a insérées sur Freenet. Freenet est un réseau qui a été architecturé de sorte que même les développeurs, même moi qui suis développeur sur Freenet, je ne peux pas, si je le voulais, demain, arrêter le réseau. Le réseau est complètement décentralisé. Tuer un nœud, tuer un serveur Freenet, tuer même le serveur web de Freenet, n'arrêtera pas le réseau.
D'accord, donc vraiment ça fonctionne tant qu'il y a des utilisateurs du réseau.
Voilà. Tant que deux personnes décident de faire tourner un nœud Freenet, il n'est pas possible de les empêcher de le faire et il n'est pas possible de contrôler les informations qu'ils vont s'échanger en utilisant Freenet.
D'accord.
Donc maintenant, si on revient au cas d'un gouvernement, le problème avec ça, c'est que les informations, il faut bien les stocker quelque part. Donc comment Freenet agit ? Freenet va stocker des bouts d'informations chiffrés sur chacun des disques durs des personnes qui ont accepté de faire tourner un nœud Freenet. Mais ces personnes-là ne savent pas quelles données ils hébergent.
Les données sont vraiment entièrement chiffrées.
De toute manière, ces données sont chiffrées. Donc légalement, ils ne peuvent pas être tenus responsables du fait qu'ils hébergent des données interdites, étant donné qu'ils n'ont même pas connaissance des données qu'ils hébergent.
Alors, moi j'ai une question, parce que tout à l'heure on parlait de notions, comment dire, de responsabilité, en disant que, nous avons pour FDN, donner un accès à Internet et que le principe c'est la liberté, enfin la liberté d'y accéder, de faire ce qu'on veut, et la responsabilité d'en subir les conséquences si on fait n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, dans le principe, quelque chose par rapport à Freenet d'un petit peu incompatible, où finalement on décide de se donner les moyens de ne pas savoir? Donc ça pourrait être considéré comme un petit peu irresponsable.
C'est une manière de voir les choses. Mais il faut voir ça avec une vision plus large. Ce que je veux dire, c'est que on est tous d'accord sur le fait que les communications entre êtres humains, c'est très important. C'est peut-être la seule chose qui nous rend humains. En partant de là, durant ces communications-là, on va souvent s'échanger du savoir. Et ce savoir-là est aussi important. Parce que notre démocratie et notre gouvernement, parce que là on a pris l'exemple d'un gouvernement, mais il y a plein d'autres personnes qui pourraient être intéressées pour censurer du contenu. Pas forcément un gouvernement, mais gardons l'exemple du gouvernement, c'est un bon exemple. Donc une démocratie, ça se base sur le fait que la population et les citoyens sont informés sur, d'une part, ce qui se passe dans la démocratie, et d'autre part, sur les tenants et les aboutissants des lois qui vont être votées et donc qui vont fonder le système. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut absolument lutter contre la censure et avoir des outils pour garantir la liberté? Ces outils et lutter contre cette censure, c'est très important. Parce que si un gouvernement qui est en place au pouvoir pouvait contrôler l'accès aux informations, c'est ce qu'on appelle la censure, alors les citoyens eux-mêmes ne sont plus en mesure, je vais dire, de prendre des décisions et donc d'élire leurs représentants d'une manière avisée, je vais dire. Donc qu'est-ce que Freenet ? Freenet, c'est un outil qui peut être vu comme une solution à ce problème éventuel de censure. Donc, bien sûr, il y a des gens qui vont penser que la censure, parfois, est nécessaire.
Et,
mais malheureusement, on ne peut pas... Oui ?
Oui. Est-ce qu'on peut justement resituer Freenet par rapport à d'autres projets concurrents, enfin concurrents ou qui se basent sur le même créneau comme Tor ? Je parlais de Tor en introduction.
Oui, il y en a d'autres. Il y a West, il y a... Bon, alors, la grosse différence entre Tor et... alors Tor, c'est un logiciel libre aussi qui a été créé par l'Electronic Frontier Foundation, donc, qui n'a pas exactement les mêmes buts que Freenet. Et donc Freenet, c'est un réseau dans le réseau. Alors que Tor, c'est une manière d'accéder aux informations d'Internet de manière anonyme. Alors le problème avec cette approche-là, c'est que... Enfin, l'approche de Tor... Enfin, disons que les deux projets ont des buts différents. Pour Tor, le but du projet, c'est de masquer, je vais dire, de fournir un anonymat à des utilisateurs qui veulent accéder à des informations qui sont déjà sur Internet. Le but de Freenet, c'est de lutter contre la censure.
D'accord.
Et donc, pour lutter contre la censure, il fournit également l'anonymat. Mais c'est un effet de bord, je vais dire. Le problème de Tor, c'est que si demain, un gouvernement veut empêcher la publication de certaines informations, il va repérer le site web en question, qui héberge les informations dont il veut arrêter la publication, et il va envoyer une équipe, la police, ou ce qu'on veut, pour arrêter le serveur web. Si le serveur web s'éteint, les utilisateurs de Tor n'auront plus accès à l'information.
D'accord. Mais est-ce que depuis Freenet, on peut accéder à des informations qui sont sur l'Internet traditionnel ?
Non.
Non. C'est vraiment, donc, c'est vraiment l'image du réseau dans le réseau.
Voilà.
Donc, c'est...
Et le gros intérêt de cette approche-là, c'est que c'est la seule manière possible qui permet de garantir la résistance contre la censure.
D'accord. Parce qu'effectivement, Tor n'est qu'un moyen d'accéder à l'Internet, en fait, de manière anonyme. Mais on accède à l'Internet traditionnel, alors que vraiment Freenet est un moyen totalement à part, en fait, complètement isolé.
Voilà, parce qu'il faut voir Freenet comme un réseau qui utilise Internet comme transport.
D'accord.
Internet meurt,
oui.
Freenet pourra continuer d'exister.
D'accord, oui, comme on le voyait en introduction via des réseaux Wi-Fi personnels, par exemple.
Typiquement, voilà, des réseaux de pair à pair, enfin de voisin à voisin. Alors que ça soit avec une technologie sans fil quelconque ou une technologie filaire, c'est la même chose.
D'accord. Moi, j'ai une question sur Freenet. Donc, en fait, n'importe qui peut installer les trucs adéquats et se brancher. Ou est-ce que c'est quelque chose qui, un peu à l'image d'FDN, a une organisation par cooptation, ce genre de choses ? Il y a pas mal de projets libres qui tournent avec... je pense à Debian, où ils ont un système de cooptation pour avoir des gens qui rentrent dans le projet. Est-ce que profiter de Freenet, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ou est-ce qu'il faut faire ses preuves d'une façon ou d'une autre ?
Alors, c'est une question qui est un peu délicate à répondre. La réponse dans l'absolu, c'est que n'importe qui est libre d'utiliser Freenet, et on ne peut interdire l'utilisation de Freenet à personne. Et de ces deux propriétés-là naissent pas mal de problèmes. Un des problèmes qu'on a sur Freenet en ce moment, c'est le spam. Problème commun qu'on a aussi sur Internet. La différence sur Internet, on peut tracer un spammeur, on peut condamner un spammeur, on peut identifier un spammeur. Sur Freenet, on ne peut pas identifier un spammeur et on peut encore moins l'empêcher de spammer. Donc, pour contrer ce problème-là, je vais dire, on est en train de développer une application, enfin un protocole de réseau de confiance. On va permettre à la communauté, d'évaluer et de dire qui a le droit ou pas de poster sur Freenet. C'est une forme de censure collective. Mais c'est la moins mauvaise des formes de censure qu'on ait pu trouver.
D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait plusieurs communautés ? Ou est-ce que c'est nécessairement une seule ? Pardon ?
Bien sûr.
Oui.
On reproche souvent à Freenet d'héberger des terroristes, des pédophiles et le genre de population qu'on n'aime pas trouver sur les autres réseaux. C'est un effet de bord. De la même manière qu'il est impossible sur Freenet de garantir le respect du copyright.
Bah, sur Internet d'ailleurs, non plus d'ailleurs. C'est... De fait, on n'y arrive pas.
Parce que sur Internet, l'autre invité le soulignait tout à l'heure, il y a aussi, là on était en train de parler, du cas où typiquement l'État voulait censurer des données. Si demain, les ayants droit, comme on les appelle en France, pour des musiques ou des films, veulent empêcher la diffusion de contenus copyrightés, ils peuvent utiliser des outils qui permettront d'identifier qui échange via des réseaux peer-to-peer classiques, donc des fichiers soumis au copyright, et donc envoyer, enfin, intenter une, enfin, commencer une procédure judiciaire à l'encontre des contrevenants au droit du copyright. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la législation évolue énormément. Et que bah, j'ai vu que votre première émission, c'était sur la loi d'Atsi.
Oui.
Vous en avez bien parlé. Vous avez juste omis de mentionner les amendements Vivendi. Typiquement, depuis que cette loi est passée, depuis que les amendements Vivendi sont passés, il est interdit de développer Freenet en France.
Mmh.
Et il est probablement interdit d'en parler.
On prend des gros risques.
De la même manière.
D'accord. Mais ça rejoint un petit peu ma remarque de tout à l'heure, hein, sur le fait de se mettre dans une position d'irresponsabilité, où finalement on peut tout à fait imaginer un législateur qui décide que se mettre dans la position de ne pas savoir ce qui est hébergé sur sa machine est répréhensible.
Oui. Mais inversement, on ne peut pas non plus vous reprocher de ne pas le savoir, parce que même si vous vouliez le savoir, vous ne pourriez pas.
Oui. Après, c'est vrai qu'on peut faire pas mal.
Et constitutionnellement, non, mais constitutionnellement, on vous donne le droit d'utiliser un logiciel, justement. Un logiciel, d'accord, quelconque.
Mm-hmm.
En soi, Freenet ne fait de mal à personne. Il y a des usages tout à fait, pertinents et légaux de Freenet. Freenet est aussi un moyen simple, peu coûteux, et efficace de distribuer des informations à une très grande échelle.
D'accord.
Comme je l'ai introduit tout à l'heure, un contenu qui est très populaire sur Freenet va se répliquer tout seul, et le réseau va le répliquer. Imaginons que demain, imaginons que je sois chanteur, que je veuille publier une musique, je veuille me faire connaître, et j'ai pas les moyens de me payer un fournisseur d'accès Internet, un serveur et une grosse bande passante pour faire connaître ma musique à des milliers d'utilisateurs, voire des millions d'utilisateurs. Eh ben, j'insère mon morceau de musique sur Freenet, je donne l'adresse là aux internautes, récupérer les données via le réseau Freenet, alors que moi je ne les aurais insérées qu'une seule fois.
D'accord.
Prenons typiquement un protocole que beaucoup de gens connaissent bien, BitTorrent. Sur BitTorrent, il n'est pas rare que du contenu soit indisponible. Indisponible pourquoi ? Parce que les personnes qui ont inséré le contenu à l'origine ne partagent plus ce contenu-là. Ça s'appelle les seeders.
Ouais.
dans le protocole. Donc si ces personnes-là disparaissent, le contenu ne sera plus disponible.
Mmh.
Et inversement, il faut pour que le transfert de fichiers passe à l'échelle, donc qu'un maximum de clients puissent avoir accès à la chanson que je viens de créer, il faut que j'ai des ressources qui soient justement proportionnées pour que ça puisse se faire.
D'accord. Moi, j'ai une question. Supposons que je veuille me mettre sur Freenet et que mon fournisseur d'accès ne soit pas FDN. Mon fournisseur d'accès ou toute autre personne espionnant ce qui se passe sur Internet serait en mesure de savoir que je suis sur Freenet, ou est-ce que c'est quelque chose de transparent et il faudrait venir sur ma machine pour le savoir?
C'est là encore une question qui n'est pas facile, dont la réponse n'est pas évidente. Tout a été fait sur Freenet pour que le fournisseur d'accès Internet ne puisse pas savoir que vous êtes sur Freenet, vous utilisez Freenet. Maintenant, s'il s'en donne les moyens, il peut avoir non pas des preuves, mais de fortes présomptions que vous utilisez Freenet. À savoir que, bon, pour faire simple, l'approche basique pour empêcher un fournisseur d'accès de savoir ce qui est échangé sur un lien Internet, c'est de chiffrer le contenu. Le problème avec le chiffrement de contenu, c'est que le simple fait que ce soit chiffré peut paraître suspicieux. Un gouvernement pourrait justement vous reprocher de cacher des choses, si on pousse la logique un peu plus loin. Si vous n'utilisez votre connexion Internet que pour des usages légaux, vous n'avez aucun problème à montrer que vous n'utilisez votre connexion Internet que pour des usages légaux. Si vous abandonnez complètement votre droit à l'anonymat et votre vie privée.
Mais alors justement, là, on parlait du chiffrement. Notamment, on est quand même limité à certaines contraintes en France, mais aussi dans d'autres pays, quant aux capacités de chiffrement.
Donc, c'est plus vrai.
Pardon ?
C'est plus vrai.
Donc ça, maintenant, on peut chiffrer de n'importe quelle manière, il n'y a aucun problème.
Pas de n'importe quel moyen, mais disons que il n'y a plus vraiment de limitation. En France, depuis 2001 et depuis... Depuis 2001, en gros, le chiffrement peut être utilisé de manière suffisamment sécurisée pour que même un gouvernement ne se donne pas la peine de faire ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur Freenet, il ne suffit pas de surveiller, je vais dire, un lien entre deux personnes. Pour voir ce qui arrive sur le réseau, il faut monitorer et donc surveiller les liens qu'il y a entre toutes les personnes qui constituent le réseau. Même pour un gouvernement, c'est très compliqué. Pour la simple et bonne raison que, bah, typiquement, tous les utilisateurs ne seront pas sur la même juridiction, et encore moins sous la juridiction du même gouvernement.
D'accord. Mais est-ce que...
Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement être capable de déchiffrer un lien entre deux nœuds, il faut être capable d'avoir accès à l'intégralité des communications entre tous les nœuds, et d'être capable de déchiffrer en plus les échanges en temps réel qu'il y a entre chacun de ces nœuds. C'est complètement impossible. Et au fur et à mesure que le réseau s'agrandit, c'est de plus en plus dur, de plus en plus coûteux.
D'accord, mais
pas dire que c'est impossible.
Est-ce qu'on pourrait quand même interdire Freenet, finalement? Parce que c'est quand même ce type de loi qui commence à passer, avec notamment les fameux petits icônes à mettre sur les sites pour qualifier le contenu. On tend de plus en plus vers une sorte d'accréditation à publier des choses sur Internet ou tout simplement à utiliser un certain nombre de protocoles. Donc est-ce que les opérateurs pourraient s'entendre, ou même un opérateur de son propre chef, on l'a vu, certains opérateurs censurent du contenu sans que ça soit spécifié par la loi. Est-ce qu'un opérateur donc peut bloquer Freenet?
Non. La réponse est simple, claire et nette. Mais au-delà de bloquer Freenet, la direction que sont en train de prendre les gouvernements, c'est plus interdire le développement d'outils tels que Freenet. J'ai sous la main, là, par exemple, les amendements Vivendi, donc l'article 21 de la loi d'AFSI. Si vous permettez, je vais vous le lire, parce que
c'est plaisir,
tout lourd quand on y réfléchit. Donc je vous lis la loi telle qu'elle a été publiée, hein. Donc, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de 1. Éditer, de mettre à disposition du public ou de communiquer au public, sciemment ou sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d'œuvres ou d'objets protégés, et 2. D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1. Donc, la loi, c'est-à-dire tel que formulé actuellement, essaie plutôt d'interdire le développement de logiciels tels que Freenet, enfin d'outils tels que Freenet, plus que d'en interdire l'usage. À ça, il y a sans doute une raison logique, hein. Il y a énormément, c'est un secret pour personne, qu'il y a énormément d'utilisateurs qui utilisent des logiciels de peer-to-peer pour s'échanger des données copyrightées. Si on appliquait la loi telle que définie là, il faudrait sanctionner, je vais dire, une grande partie des concitoyens. Alors que viser les gens qui développent des logiciels de peer-to-peer, ça réduit tout de suite le nombre. Je ne sais pas combien de personnes en France développent des logiciels de peer-to-peer, mais c'est pas significatif comparé au nombre de personnes qui utilisent un logiciel de peer-to-peer pour enfreindre les lois sur le copyright.
Mais alors toi, justement, en tant que contributeur à Freenet, comment tu vis ça?
Ah ben, vous ne l'avez pas mentionné, mais je ne suis pas en France en ce moment.
Non, non, on ne l'a pas mentionné, effectivement. Ni ton nom, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est Florent Dénière, mon nom, et j'aurais dû m'introduire tout à l'heure. Donc oui, je suis contributeur au projet Freenet depuis un moment déjà. Et sinon, dans la vie, je suis étudiant. Voilà. Et donc oui, le gros problème avec les lois qui sont passées là, c'est que elles mécomprennent l'enjeu, je vais dire. C'est pas parce qu'un logiciel n'est pas développé en France qu'il ne sera pas utilisé par des Français.
Oui, la plupart des logiciels de peer-to-peer qui sont employés ont été développés ailleurs. Oui.
Pas la plupart, parce qu'en France, on avait une bonne recherche. Oui. Je vais prendre un autre exemple. Il y a un logiciel qui est très connu, c'est Azurus. C'est un logiciel qui était français à l'origine. Non, il y avait une communauté de recherche, parce que c'est un domaine de recherche quand même assez intéressant et important, le peer-to-peer, qui était assez en avance en France. Donc on a pas mal de logiciels qui sont nés en France. Mais au-delà de ça, c'est une mécompréhension de l'Internet, je vais dire. C'est pas parce que le logiciel, justement, a été conçu à l'étranger que les Français vont pas l'utiliser. Donc, créer une loi qui interdit le développement de logiciels de ce type-là en France, je vais pas dire que c'est inutile, mais je vais dire que c'est futile.
Oui.
Si le but est bien d'interdire l'utilisation des logiciels. Inversement, pour prendre une métaphore, la fabrication d'armes est pas interdite en France. On interdit l'usage des armes. On interdit à quelqu'un de tuer son voisin en utilisant une arme à feu. Mais on n'interdit pas la commercialisation des armes à feu. On la réglemente, certes, mais on n'interdit pas. Donc là, l'idée, ça serait qu'on emprisonnerait les gens qui fabriquent des armes à feu au prétexte que, potentiellement, on peut l'utiliser pour tuer son voisin.
Oui, c'est un peu le même genre de logique qu'on observe dans... Bah avec le, enfin sur les hébergeurs de contenu qui sont tenus pour responsables et de ce qu'on peut avoir chez eux.
Mais c'est la même chose qui rentre en jeu, je veux dire. La différence, c'est qu'on peut pas emprisonner 50 millions de Français au prétexte qu'ils ont téléchargé un jour des musiques sur Internet.
D'accord.
Ou pire, qu'ils ont eu la connaissance qu'un jour quelqu'un a échangé des musiques sur Internet, parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces lois-là ont des sanctions qui ont été définies dans le code pénal, et j'ai pas l'article là sous les yeux, mais de mémoire, c'est quelque chose comme 300 000 euros d'amende et de la prison ferme. Hein. Pour avoir développé une mesure, enfin un contournement, une mesure technique de protection, ou pour avoir fait la promotion d'un logiciel, je reprends les termes de la loi, manifestement destiné à la mise à disposition ou à quelque chose. D'ailleurs, c'est passé en Conseil constitutionnel qui a déclaré qu'un logiciel manifestement destiné, on ne savait pas ce que c'était.
D'accord.
Également parlant.
Florent, on va passer la parole à Benjamin. Est-ce que tu veux dire quelque chose en conclusion?
En conclusion, je veux bien vous... Déjà, je tiens à informer vos auditeurs que Freenet est à l'aube d'une mini-révolution, dans le sens où il y a une version majeure du logiciel qui va sortir la semaine prochaine.
Mm-hmm.
Donc, si vos auditeurs veulent l'essayer, ils peuvent.
Ouais. On mettra. On met toujours les liens de, enfin, nos invités, la musique, etc., sur Internet à l'issue des émissions avec l'enregistrement. On pourra trouver le lien sans souci. De toute façon, il suffit sinon de taper Freenet dans Google. Hein, je pense que on trouve ça sans problème. Voilà.
Voilà. Sinon, je tenais aussi à remercier les contributeurs français à Freenet. Je vais pas les nommer parce que, comme expliqué précédemment, c'est pas forcément légal de contribuer à Freenet en France.
D'accord.
Au-delà de ça, je ne suis pas un avocat, hein, donc je ne suis pas un juriste, je ne suis pas sûr de comprendre la loi, mais c'est... je suis un peu gêné là, à m'exprimer sur la loi comme ça.
D'accord, bon.
Je devrais sans doute pas dire ça, mais globalement, j'ai l'impression que personne ne comprend vraiment les enjeux de cette loi.
Oui, oui.
Elle est passée, mais on est dans le flou artistique le plus total. Tant qu'il n'y a pas eu un exemple, et tant que...
Oui, mais en plus ça, il y a... Oui.
N'ont pas défini le cadre d'application de cette loi-là.
On sait qu'il y a des choses qui sont passées.
Ce qui est interdit et ce qui est autorisé.
Oui, oui. Elle est massivement dénoncée comme étant complètement, complètement floue, etc. On sait qu'il y a des gens qui... Enfin, c'est pas lié au logiciel, hein, mais on sait que... Enfin, oui, les gens étaient venus expliquer qu'ils s'étaient dénoncés pour...
C'est plus clair.
Oui. Voilà. Les gens qui sont dénoncés pour avoir lu des DVD sous Linux, ce qui est interdit. Et à ce jour, oui. À ma connaissance, ils n'ont pas... leur auto-dénonciation n'a rien donné de particulier. Bah, Florent, on te remercie beaucoup. Bon, on s'excuse pour les conditions un petit peu difficiles là, avec l'insert téléphonique. Voilà, bah, merci beaucoup. Et on va passer un morceau de musique et on retrouve Benjamin Bayard.
D'accord.
Merci.
Donc les nouvelles du Liban.
Symbiose de retour sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, on a un petit peu coupé le morceau parce que suite à un doigt qui dérape sur la platine, on a remis le premier morceau qu'on avait mis. Donc nous sommes avec Benjamin Bayard, donc maintenant donc de FDN, et on va continuer sur nos affaires donc de liberté d'internet et ce genre de choses, et on va s'intéresser d'un peu plus près. Une petite approche un peu historique et parce qu'on parle, enfin, on connaît Internet, on connaît le web, etc. On mélange un peu tout ça et nous raconter un petit peu, enfin, faire une rétrospective de l'évolution et voir les principes qui sont derrière.
Avec notamment donc la question, on a connu les BBS, c'était dans les années 80, avec aussi Usenet, hein, qui est apparu au milieu des années 80. Maintenant, on ne voit que du web et des forums un peu partout. avec cette question fondamentale, y a-t-on gagné en liberté ou pas? Donc Benjamin, si tu as quelques éléments de réponse.
Il y a un point important à comprendre. Le forum revient beaucoup plus à faire du BBS que ce qu'on avait créé avec les systèmes de newsgroup sur Usenet et sur Internet. J'explique. Pour faire taire un newsgroup, c'est super compliqué parce qu'il faut que tous les administrateurs de tous les serveurs de news de la planète décident de supprimer le groupe. C'est quelque chose qui se produit à peu près jamais. Ou alors sur des cas vraiment suffisamment extrêmes pour que tout le monde soit d'accord sur le fait que voilà, ça c'est de la merde, on va l'enlever. Même les groupes les plus odieux ont toujours réussi à subsister quelque part. Le forum, c'est un site web. C'est-à-dire que ce sont des échanges entre des gens qui sont n'importe où sur la planète, mais tous ces échanges ont lieu sur un serveur très précis. Exactement comme au temps du BBS, tout le monde se connectait sur le même serveur BBS pour pouvoir bavarder, babiller comme on disait à l'époque. Le forum web, exactement comme le BBS, peut être éteint de manière très simple, il suffit d'éteindre l'ordinateur central avec. À partir du moment où on recrée un réseau qui est composé d'un ordinateur central, qui est le point d'interconnexion, et d'ordinateurs passifs autour qui se connectent sur cet ordinateur central pour pouvoir échanger, on a recréé un réseau de type Minitel, ou un réseau de type BBS, c'est-à-dire un réseau en étoile, où on a un centre qui contient tout, et puis des lignes qui partent du centre vers les terminaux, qui eux ne contiennent rien. Et il suffit d'éteindre le centre pour avoir éteint le réseau.
Alors justement, ça c'est intéressant ce que tu évoques, parce que Florent nous évoquait exactement la même chose avec le projet Freenet, qui justement fonctionne par réplication des informations et donc qui empêche toute censure, puisqu'il n'y a pas de centralisation des données. Donc on s'aperçoit justement que cette notion de décentralisation garantit la liberté d'expression. Mais finalement, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Donc, a-t-on gagné ou perdu d'un point de vue liberté sur Internet depuis, on va dire, que ça a atteint le grand public, ça va faire une vingtaine d'années?
On y a très clairement perdu. On a gagné un confort d'utilisation, mais on a très très clairement perdu en matière de liberté. C'est-à-dire que c'était pas censurable, c'est devenu censurable. De censurable à censurer, il y a une marche très courte. Ce sera censuré, bientôt, très bientôt. C'est déjà censuré à certains endroits.
D'accord.
Est-ce que tu aurais des exemples concrets à fournir sur ce sujet?
Il y a le banal qui est la Chine. On ne peut pas, depuis un accès Internet en Chine, accéder à ce qu'on veut comme contenu.
Oui, effectivement, on s'aperçoit que la Chine fait des partenariats.
Le chinois est très, très centralisé. Il y a un seul opérateur qui est l'État, qui filtre ce qu'il veut comme il veut. Voilà, c'est l'exemple type du réseau centralisé et donc censuré.
Oui, et donc comme je le disais, en fait, le gouvernement aussi s'associe avec les grands moteurs de recherche pour justement filtrer le contenu, ce qui est d'autant plus inquiétant.
On a le cas de la Tunisie également. Sarkozy a beau avoir dit que tout était au mieux dans le meilleur des mondes. On sait qu'il n'y a qu'une seule...
Associé entre un gouvernement qui veut censurer et les grands moteurs de recherche, ce n'est pas le bon mot. Le gouvernement a un pouvoir de nuisance vis-à-vis des grands moteurs de recherche, puisqu'il peut simplement interdire l'activité économique dans son pays. Donc voilà, quand on s'appelle la Chine et qu'on interdit l'activité économique, ça fait un beau marché qui disparaît. Et donc le moteur de recherche qui a envie d'exister sur le marché chinois pour pouvoir vendre de la pub en chinois quand on fait des recherches en chinois, il est bien obligé de se plier aux injonctions du gouvernement pour pouvoir continuer à faire du business. Donc, associé n'est pas le bon mot. C'est le moteur, que ce soit Google, Yahoo ou les autres, hein, ils sont tous pareils, accepte d'appliquer une loi qu'il ne juge pas nécessairement juste pour pouvoir continuer à faire du business. Mais exactement comme toute entreprise légale, par définition, collabore avec la politique du gouvernement.
Mais alors moi j'avais une question, parce que si on regarde un petit peu historiquement justement le fait qu'Internet était donc bien plus ouvert au début que maintenant, Est-ce qu'il s'agit d'une volonté réelle des différents gouvernements, parce que ce qu'on vit en France, on le vit à mon avis dans d'autres pays, de justement reprendre en main, après une certaine prise de conscience, que Internet était un énorme moyen d'échange entre individus qui créaient des nouvelles communautés auto-organisées et que finalement il fallait aussi contrôler ça parce qu'il fallait contrôler l'information et aussi forcément les échanges entre individus, pas forcément de même pays et que ça déplaisait à bon nombre.
Alors, ce que tu évoques, c'est un des facteurs qui tend à recentraliser le réseau, mais c'est un des plus faibles. Il faut bien comprendre, le gouvernement a envie de contrôler la parole publique parce que quand le public parle, c'est dangereux. Et voilà, ça on le sait, les rois de France qu'on a coupés en deux le savaient. C'est ancien, cette question-là. C'est pour ça qu'ils ont voulu pendant très longtemps faire un contrôle de la presse. C'est pour ça qu'ils ont toujours un contrôle très fort sur la télévision et un tout petit peu moins fort sur la radio. Voilà, ça c'est pas nouveau. C'est avec tous les médias. Internet avait cette particularité, d'être particulièrement incontrôlable, et ça leur faisait très très peur. Le fait que Internet redevienne centralisé, donc redevienne contrôlable, ça les rassure, mais c'est pas de leur fait. Je crois que la velléité gouvernementale de recentraliser Internet, elle est assez faible et elle a assez peu d'impact. Ce sont des facteurs autres qui créent la recentralisation d'Internet.
Et donc, quels sont ces autres facteurs? C'est plutôt les acteurs économiques ou...
Alors, il y en a plein. Il y a un facteur très simple qui est que pour avoir un réseau décentralisé, il faut qu'il y ait partout sur le réseau, en périphérie du réseau, donc sur les ordinateurs de monsieur et madame tout le monde, à la fois de la diffusion de contenu et de la consultation de contenu. Si tu regardes ça, tu le compares à de la radio, il faut que tout le monde émette sa petite émission de radio depuis chez lui et que tout le monde écoute sa radio depuis chez lui. Tout le monde écoutant les radios des autres et émettant la sienne, tu peux très difficilement empêcher la parole d'avoir lieu. Or, quand on a démocratisé Internet, voilà, l'utilisateur lambda, Madame Michu, elle s'est pas dit, tiens, je vais avoir un site web et je vais le mettre chez moi. Elle a d'abord pas eu envie d'avoir un site web tout de suite, c'est au bout de 3-4 ans d'utilisation qu'elle s'est dit, tiens, je vais faire un site avec mes photos de vacances. Et puis elle a pas eu du tout l'idée de le mettre chez elle. Donc, ça, c'est le premier facteur. L'usage est plus simple quand on se pose pas de questions, quand on se dit, tiens, c'est les autres qui vont le faire à ma place, finalement. C'est mon fournisseur d'accès Internet qui va me fournir des pages perso, j'aurai pas à y réfléchir. Ça, c'est le premier facteur. C'est très puissant. La paresse des gens, c'est un facteur énorme. Le deuxième facteur, c'est très clairement un facteur économique. C'est-à-dire que la centralisation commence à se faire, parce que comme les gens veulent avoir les pages perso, les opérateurs leur fournissent parce que ça simplifie la vie des gens, et ils se rendent compte que ça peut avoir une valeur. Et donc, une fois que ce mouvement est lancé, ils cherchent à l'amplifier pour créer de la valeur. Ça, c'est un deuxième facteur. Le fait de vouloir centraliser les contenus, ça permet de les valoriser. Si tu as tes 2 ou 3 vidéos rigolotes sur ton PC à toi, sur ton site web à toi, ça ne viendra pas à l'idée d'y mettre de la pub parce que ça va rapporter 12 centimes d'euros par mois, tu t'en fous. Par contre, si tu mets toutes les vidéos rigolotes de millions de gens sur une énorme plateforme centralisée, alors, comme il y a des millions de vidéos, il y a des millions de visiteurs, comme il y a des millions de visiteurs, la pub représente un très gros volume d'argent, et tu peux le monétiser. Tu peux fabriquer de l'argent à partir de ça. Ça, c'est un deuxième facteur qui tend à concentrer. Tu vas avoir un troisième facteur qui est essentiellement technique. Il y a 10 ans, c'était très compliqué d'héberger des pages perso. Il fallait un gros ordinateur, il fallait qu'il soit allumé 24 heures sur 24. C'était sur une connexion RTC, donc qui de toute façon n'était connecté que quelques heures par jour. C'était très compliqué d'avoir son serveur de pages perso à soi. Aujourd'hui, c'est devenu facile, mais les gens ont pris le mauvais pli. Voilà, il y a pas mal de facteurs qui ont contribué à faire ce réseau centralisé, alors qu'il y a à l'opposé très très peu de facteurs qui tendent à le décentraliser.
D'accord. Vous avez pensé au bouquin de Laurent Chemla, Confession d'un voleur, qui date un peu, il date de 2003, et en matière informatique, le temps passe très très vite. Et il a cette description des systèmes, enfin, avec les, les pages perso et ce genre de trucs. Et il met l'accent sur le fait que ce soit des hébergeurs, les premiers hébergeurs de pages perso indépendants qui se soient fait attaquer, alors que les grands providers d'accès ont eu beaucoup moins de soucis. Donc est-ce que tu es d'accord avec lui sur cette idée que il y a une attaque spécifiquement sur les acteurs indépendants?
Il y a une attaque spécifiquement sur les acteurs indépendants. Alors je connais bien le bouquin de Laurent et je connais très bien Laurent, donc je situe beaucoup, pas très précisément les enjeux. Les hébergeurs indépendants sont beaucoup plus attaqués, et non, c'est pas dans le cadre d'un grand complot des méchants. C'est pour des raisons très pragmatiques. Quand un contenu t'embête sur Internet et que tu es quelqu'un de puissant, que tu contactes un opérateur via ton avocat ou par des biais que tu peux avoir autres, tu obtiendras que le contenu soit retiré sans jugement, sans procès. Typiquement, tu prends, une affaire comme Je boycotte Danone. Quand le PDG de Danone contacte le patron de l'hébergeur, si l'hébergeur c'est Orange ou Neuf, on va se mettre d'accord entre PDG du CAC 40 et on va décider que le site web là on l'enlève et puis voilà. Il n'y a pas besoin de juge, on fait ça entre nous. Si tout PDG de Danone que tu sois, tu vas contacter le président d'une petite assoce qui milite pour la liberté d'expression en disant de retirer le contenu, le président de la petite assoce, il va te rironner, il va te dire écoute, t'as pas de jugement de tribunal pépère, reviens quand on aura un. Forcément, M. Danone, il s'embête pas, hein. Il va au tribunal et puis il regarde ce que ça donne. Donc au final, les grands, les gros sont jamais attaqués, parce que, en général, ils cèdent. La liberté d'expression pour eux n'est pas un enjeu. France Télécom ou Free ou Numéricable va monter au procès si on veut leur interdire de faire de la VOD. Parce que tu touches au cœur, tu touches au porte-monnaie. C'est-à-dire, franchement, la liberté d'expression d'un de leurs X millions de clients sur une page perso dont ils n'ont rien à foutre, ah, ils s'en fichent. Quelqu'un leur demande de le retirer, ils le retirent. Si le client n'est pas content, le client ira au procès. Il n'a pas de moyens, le client.
D'accord. Et donc là, on va conclure dans quelques minutes. Et je voudrais avoir ton avis, justement, sur l'évolution de cette censure dans le futur. Est-ce qu'on va aller vraiment vers un Internet qui sera 100% contrôlé, vu qu'on parlait déjà dans certaines lois qu'il faudrait, ça a été émis hein, comme idée, que chaque personne ait un espion sur son ordinateur pour garantir qu'il ne piratait pas, etc. Donc qu'est-ce que tu penses, que c'est un mouvement qui va s'amplifier, ou finalement toutes les lois que l'on vit ne sont qu'un coup d'épée dans l'eau et va y avoir un statu quo un peu informel?
Ça dépend de ce que tu appelles long terme. À très long terme, je suis certain qu'il restera une très grande forme de liberté sur Internet. De la même manière, quand on a inventé l'imprimerie, la conséquence inévitable, c'était d'inventer la liberté de la presse. Il a fallu 3 siècles. Mais c'était inévitable. C'est-à-dire, quand on a inventé l'imprimerie, forcément, la conséquence, à long terme, c'était la liberté de la presse. De la même manière, quand tu inventes Internet, la conséquence, à long terme, c'est la liberté d'expression. Tu ne peux pas l'empêcher. Après, ça peut mettre très longtemps. Je crois que ça mettra moins longtemps que l'imprimerie parce que, voilà, tout va plus vite. Mais on ne pourra pas l'empêcher. C'est-à-dire que les gouvernants, il y a beaucoup de coups d'épée dans l'eau dans l'histoire. Il y a un autre facteur qui est assez rassurant, c'est qu'il faut comprendre que Internet croît de sa diversité. Ce qui a fait l'immense croissance d'Internet ces 15 dernières années, c'est le fait qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers d'acteurs de par le monde. C'est que quand une bonne idée apparaît au Japon, elle est reprise 8 jours après aux États-Unis. C'est ça qui fait la croissance. C'est la floraison d'idées, c'est la floraison de technologies, et tout ça, ça bourgeonne.
D'accord.
À partir du moment où tu contrôles, ça bourgeonne plus.
D'accord. Tout à l'heure, tu parlais des enjeux financiers, etc. On voit que notamment Google avec YouTube, auquel tu faisais référence, se prend quand même des procès de quelques acteurs comme TF1, ce genre de choses, pour des histoires de gros sous. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que du non-respect de copyright, il y en a à l'appel sur YouTube ou Dailymotion. Et on voit finalement le traitement n'est pas du tout le même que le peer-to-peer et ce genre de choses. Est-ce que tu Comment...
Est-ce que tu penses... rien, ouais. C'est les gens qui sont sur le même marché, Google et TF1. C'est les gens qui diffusent du contenu et qui n'en produisent, enfin, qui en produisent assez peu, finalement. Mm-hmm. TF1 en produit encore, mais ça changera. Voilà, c'est les gens qui sont sur le marché de la diffusion de contenu. Voilà, chacun défend son beefsteak, et quand il y en a un qui marche sur les plates-bandes de l'autre, ils vont régler ça au tribunal de commerce.
C'est du business. Quoi.
Voilà, c'est très banal. C'est du business.
Bon, alors malheureusement, il va falloir qu'on rende l'antenne à l'émission qui nous succède. Bon, bah, là encore, désolé des conditions un peu difficiles pour l'émission. On te remercie de ta participation. Si tu veux revenir à l'occasion ou parler de FDN et ce genre de choses, ce sera avec plaisir. Donc, merci.
Très volontiers. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi. Et donc, Wael, merci pour la technique. Et on va se quitter avec un dernier morceau. La piste 4 fera bon usage. Et donc, bah, merci à vous et on se retrouve dans un mois.
Je m'emmerde.